Shalom uvracha, shalom uvracha, boker tov le kulam, boker tov shavua tov. Et ce matin, une petite vidéo très particulière, parce qu'on est obligé de réagir. J'ai déjà parlé de cela avec ma communauté durant Shabbat, mais on est obligé de réagir par rapport aux événements de la semaine dernière, c'est évident. Et j'aimerais aborder les choses d'un point de vue peut-être qui n'a pas encore été abordé. Et on va essayer de tout relier. C'est un petit peu compliqué, c'est un peu confus aussi dans ma tête à moi. Donc, on va essayer de faire les choses de manière le plus vrai possible, j'espère. Il y a une différence fondamentale dans le judaïsme entre Moshe Rabbeinu et le reste des prophètes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Moshe Rabbeinu, il est également celui qui transmet la névoie, la prophétie, mais il est également celui qui transmet la halakha. C'est-à-dire qu'au niveau de Moshe, la prophétie et la loi sont reliées, puisque la loi provient de la parole que Dieu donne à Moshe. Jusque-là, tout va bien. Mais ça, ce n'est vrai qu'à l'époque de Moshe. Car après Moshe, il y a des prophètes et il y a des talmidei chachamim. Des fois, le prophète peut être talmid chacham. Mais les deux rôles sont complètement différents. Lorsque le prophète reçoit une névoie, c'est très bien, Kohamar Hashem, ça n'a rien à voir avec la halakha. Même si Dieu vient lui donner une prophétie sur un sujet X ou Y, après il amènera cette prophétie au Beit HaMidrash, et au Beit HaMidrash on discutera, et on ne sera peut-être pas d'accord avec l'interprétation du prophète lui-même quant à la halakha. C'est-à-dire que la halakha n'est pas la névoie. On ne peut pas être posek halakha alpi névoie. On détermine la halakha selon des principes de halakha qui nous ont été mis en place par Moshe. Et donc j'ai dit, Moshe c'est particulier. Mais après cela, halakha et névoie, ce sont deux domaines différents. Alors, évidemment qu'ils sont reliés, mais ils sont différents. Pourquoi cette introduction ? Parce qu'on ne peut pas venir dire aujourd'hui, ni hier, lorsqu'il y avait les prophètes, on ne peut pas dire, la halakha est comme mon avis parce que je l'ai entendu d'une voix du ciel. C'est la fameuse histoire entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, dans le Talmud, dans le traité de Baba Metzia, lorsqu'on nous parle de Tanuro Shalachnai, que Rabbi Eliezer avait un avis et il a amené des preuves surnaturelles jusqu'à amener une voix qui sort du ciel, disant la halakha est comme mon avis, parce que la preuve, la voix le dit. Sauf que non, la halakha, elle n'est pas comme lui. La halakha, elle est comme Rabbi Yehoshua, qui a utilisé des preuves intellectuelles de compréhension du texte. Mais ça, donc, ça veut dire que même à l'époque de la prophétie, et alors, encore une fois, Rabbi Eliezer, c'était même pas un prophète. Il a amené une voix du ciel, mais ce n'était même pas encore vraiment de la prophétie. Mais même à l'époque de la prophétie, si David Ameler, qui était prophète, entend une névoie et arrive au Beit HaMidrash et dit « Voilà, la névoie, elle m'a dit comme ça, donc j'ai raison. » Non. Peut-être tu auras raison, peut-être pas. Et donc, a fortiori, aujourd'hui, où il n'y a pas de prophétie, eh bien, personne ne peut venir prétendre que j'ai entendu une voix du ciel qui m'a dit « C'est moi qui ai raison. » Je dis cette introduction pourquoi ? Parce que par rapport à l'histoire tragique qui a explosé la semaine dernière, l'histoire de M. Valder, eh bien, on a entendu des gens, des rabbanim, dire que les paroles d'un certain rabbin, très très connu dans le monde, on va dire, sioniste religieux, même s'il a une grande tendance à être proche du monde orthodoxe, Haredi, un grand rabbin, dire que toutes les preuves qui ont été amenées contre l'homme ne valent rien. Ça, c'est ce qu'il a dit, lui. Ne valent rien, il ne s'est rien passé, c'est une histoire montée de toutes pièces contre lui. Ses élèves, qui lui sont complètement dévoués, ont été mis face à un grave problème. Parce que d'un côté, ils ont vu les preuves apportées. Mais leur rabbin avait dit, non, tout est faux. Et donc, comment ils ont expliqué ça? Ils ont dit, Ruach HaKodesh. Alors, je ne sais pas si c'est vrai Ruach HaKodesh ou pas, qui je suis. Mais même si c'est vrai, excusez-moi, mais même si c'est vrai, ça n'a rien à voir au niveau du domaine de la halakha. Ça ne rentre pas. Je sais pas ce qui m'arrive ce matin. J'ai le chat dans la gorge. Ça ne rentre pas en ligne de cause au niveau de la halakha. En mala asot. Tu as beau être un rabbin très très grand, et très... ce n'est pas comme ça qu'on détermine la halakha. Dans le cas de la paracha de M. Valder, le Rav Shmuel Eliaou a amené toutes les preuves possibles et imaginables. Le Bet Din a été effectué Kadat Vekadin, même a été beaucoup plus regardant que ce qu'il aurait pu simplement faire. Je vous rappelle que d'après la halakha, hein, quand il s'agit de quelqu'un qui est accusé de Averot Hamurot, de graves Averot qui sont, font partie des relations interdites, du meurtre, de l'idolâtrie, eh bien, on est mistapek dans la halakha de Shmuot Hazakot. On n'a même pas besoin de preuves à l'appui totale pour que le Bet Din commence déjà à accuser la personne. Donc, là, en l'occurrence, il y avait des preuves et des témoignages et des choses extraordinairement dures. Donc, les choses n'ont pas de doute. En mala asot, lorsque la halakha fait face à ses responsabilités, eh bien, c'est peut-être le point de lumière qu'il y a. Il faut bien comprendre. Alors, pour ceux qui me disent, non, mais il n'a pas été jugé par une cour pénale de justice officielle. Je tiens à vous rappeler qu'il y a des choses qui ne sont pas jugeables au niveau de la loi civile. Par exemple, quelqu'un qui profiterait peut-être de la crédulité de certaines personnes et qui aurait des aventures avec des femmes mariées, parce qu'il aurait réussi à les convaincre, ben, ce sont des femmes mariées majeures. La loi, on va dire en Israël et ailleurs, ben, n'interdit pas cela, malheureusement. Donc, quoi, le Bet Din ne doit rien faire? Le Bet Din ne doit pas se saisir de la situation et continuer à laisser les choses faire? S'il n'y a pas eu de plainte à la police, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de avéra terrible qui a été commise? C'est pas parce que les gens ne vont pas se plaindre qu'il n'y a pas un problème à la police. Vous savez très bien que dans certains milieux, on est énormément réticent d'aller voir la police, mais d'aller voir des rabbanim peut-être moins. Et je trouve ça extraordinaire que finalement, eh bien, on peut faire confiance à des rabbanim qui ne vont pas faire l'autruche, qui ne vont pas mettre la tête dans le sol en disant non, il ne s'est rien passé. C'est une histoire tragique. C'est une histoire qui nous demande un grand, grand, grand cheshbon nefesh à nous en tant que juifs religieux, mais à nous en tant que juifs tout court et à nous en tant qu'êtres humains. Parce que si je sors de cette paracha-là de seconde, si je sors de l'histoire qui vient de se passer et que je regarde un prisme plus général sur notre société et sa relation avec les relations intimes, on a un grand, grand, grand cheshbon nefesh à faire. Parce que toutes les personnes qui m'écoutent ce matin, je ne sais pas, je ne vous accuse pas, mais combien d'entre nous possédons une télévision, un ordinateur, une connexion Internet? Et combien d'entre nous allons voir des films, des séries, Netflix ou autre, le méchané? Et quand on y réfléchit deux secondes, mais qui donne la force à ces réseaux sociaux? Enfin, ben oui, réseaux sociaux aussi, mais à ces films, à ces séries? Ben, c'est le public. Si le public ne les regarde pas, les producteurs et les studios ne le font pas. Et comment vous imaginez qu'aujourd'hui, dans notre société, les films qui marchent, ce sont des films avec des scènes avec une intimité complètement débridée, violente et absolument terrible? Et c'est ça qu'on montre à des heures de grandes écoutes. J'ai lu, je crois que c'est vendredi, j'ai lu qu'il y a eu un tollé général en France. Je ne sais pas à quel point c'est vrai le tollé, mais parce qu'ils ont refait une version de Sissi l'impératrice, mais avec des scènes extrêmement choquantes. Et je m'en tape de savoir si, historiquement parlant, c'est plus vrai ou pas. Je veux dire, Sissi l'impératrice, je parle de ça parce que c'était un grand classique des années 60, je crois, qui était d'ailleurs ultra tsanoua, parce que c'était l'ambiance de l'époque. Et aujourd'hui, on te refait le même film avec des scènes absolument abjectes. En termes, alors je ne les ai pas vues, hein. Je ne sais pas, mais c'est ce qui était marqué là-bas, où il y avait des scènes de sexualité complètement mises à l'écran. Et moi, je dis, mais non. Au niveau sociétal, on a un vrai cheshbon nefesh à faire. Si le public, nous, demandons ce genre de contenu, il ne faut pas s'étonner que ces contenus soient partout. si nous arrêtons de demander ce genre de contenu, alors, eh bien, on pourra commencer petit à petit à corriger une société qui a besoin d'être corrigée à ce niveau-là pour tout simplement arriver à une connexion à Kadosh Baruch Hu qui est plus vraie, plus authentique et qui nous amènera à quelque chose de beaucoup mieux. À bientôt, les amis.